Nous allons continuer dans l'évangile de Luc. Si vous voulez, vous tournez avec moi au chapitre 17, verset 11. Je vais vous demander de vous lever. On va lire les versets 11 à 19. Je lis dans la version à la colombe. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Mais les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. On a déjà vu dans Luc, au chapitre 5, on peut regarder rapidement, verset 12 à 16, la première guérison d'un lépreux. Et à l'époque, on avait souligné qu'en fait, les lépreux, c'était les intouchables d'aujourd'hui. On sait le succès du film de Omar Sy, je ne sais plus comment on dit Sy, et François Cluzet. Qui s'appelait les intouchables, et la lèpre, c'était un peu la fièvre d'Ebola de l'époque. On avait une peur bleue de cette maladie qui vous rendait tout blanc et qui ne vous faisait pas mourir brutalement, mais qui vous rendait handicapé de façon terrible, qui vous rendait horrible physiquement et qui vous tenait à l'écart de la communauté. La lèpre est une terrible maladie, une vieille maladie. On a retrouvé des signes de lèpre sur des momies datant du 4000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est que très récemment, dans les années 1860, qu'un dénommé Hansen, un médecin, je crois, scandinave, peut-être norvégien, a trouvé que cette maladie était provoquée par une bactérie, la bactérie de la lèpre, Mycobacterium leprae, une maladie qui est, d'une façon étrange, très proche, au point de vue de l'ADN, de la tuberculose. Au point que, normalement, il y a incompatibilité. Si vous êtes lépreux, vous n'attrapez pas la tuberculose. Et si vous êtes tuberculé, vous n'attrapez pas la lèpre. C'est pas un choix très, très encourageant, mais c'est intéressant. Et c'est traitable aujourd'hui. On a trouvé des antibiotiques. Il y avait des remèdes dans l'ancien temps qui avaient été trouvés en Inde, des arbres qui avaient des vertus qui leur permettaient de lutter contre cette maladie. Et malheureusement, il y a eu une accoutumance et ce traitement n'a plus été efficace. Et ce dénommé Hansen a trouvé des traitements complémentaires et on a un peu comme une trithérapie à la façon de ce qu'on a pour le sida, qui est un peu considéré aussi aujourd'hui comme la lèpre moderne. Mais c'était une maladie terrible, non seulement sur le plan physique, c'est une maladie qui rend la peau et les nerfs périphériques insensibles. C'est une espèce d'anesthésie qui touche, quand elle se développe, les muqueuses respiratoires, qui touche les yeux, qui vous fait des problèmes, rend votre peau vraiment horrible. Il y a des pustules, il y a des lésions qui apparaissent sur votre visage. Et le problème de la maladie, donc, c'est qu'elle anesthésie les nerfs et donc vous ne sentez plus la douleur. Et les conséquences les plus graves viennent de cette anesthésie. Les gens peuvent se blesser sans s'en rendre compte. On peut marcher sur du feu sans s'en rendre compte. Les pieds sont brûlés, mais ça fait pas mal. Et c'est une maladie contagieuse, surtout lorsqu'elle elle atteint les muqueuses respiratoires, les postillons, le contact des personnes saines avec des personnes qui sont près d'elles, qui éternuent, qui souvent dans les familles, c'est pratiquement impossible d'éviter la propagation de cette terrible maladie. Aujourd'hui encore, il y a des millions de personnes, on pense 14 millions de personnes qui sont infectées par cette maladie terrible. Il y a près de 200 000 nouveaux cas chaque année et pourtant on a le traitement. Mais il y a des pays où il y a un système de santé déplorable qui n'est pas capable de vacciner les gens, de les traiter. C'est une maladie avec laquelle on a appris à vivre. On va se scandaliser de la maladie d'Ebola, mais la lèpre, on la considère comme quelque chose de bénin comparé. Et on est la seule façon dont on traitait ces personnes pendant longtemps, depuis les temps les plus antiques, c'était de les isoler. On construisait ce qu'on appelait des léproseries, c'est-à-dire des colonies de lépreux. Beaucoup des territoires d'outre-mer à l'origine étaient utilisés comme des endroits où on envoyait ces personnes dont on voulait se séparer. Au Moyen-Âge, les lépreux devaient avoir une petite crécelle, un de ces instruments qui font du bruit, qu'on fait tourner et qui font un crépitement, pour se signaler auprès des gens qui les évitaient. Dans la Bible, les lépreux devaient se tenir à l'écart. Il y avait même des distances spécifiées. On en parle dans le Lévitique. C'est une maladie très dangereuse pour la communauté. Donc les prêtres étaient utilisés par la parole, par les prescriptions de la loi, pour être à même de reconnaître le développement de cette maladie terrible. Et il y avait tout un tas de lois qu'on trouve notamment dans le Lévitique 14. Je vais lire quelques versets, c'est pas la peine de vous y tourner. Mais l'Éternel parla à Moïse et dit « Voici quelle sera la loi concernant le lépreux, le jour de sa purification. On l'amènera vers le prêtre. » Les prêtres jouaient, ou sacrificateurs dans la Bible, à la colombe. Et le sacrificateur sortira du camp. Si le sacrificateur voit que le lépreux est guéri de la lèpre, il ordonnera que l'on prenne pour ce qui lui soit d'être celui qui doit être purifié des oiseaux vivants et purs. Donc il y avait des sacrifices à faire. Il y avait tout un cérémonial. Mais c'était les prêtres qui étaient à même de déclarer la guérison ou non d'un lépreux. Alors c'est une maladie qui, encore une fois, pour nous n'est pas familière. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui inspirait la peur. Et ces hommes, donc, vivaient une séparation très douloureuse. Ils étaient séparés de leur famille. Ils vivaient dans la misère. Et souvent, l'évolution pouvait, avant même l'incubation, peut prendre 5 à 8 ans, même voire 20 ans d'évolution. Et donc, il y avait un peu sur tout le monde cette terrible menace. Et guérir de quelqu'un de la lèpre, c'était comme guérir quelqu'un aujourd'hui d'Ebola ou du sida, de la fièvre d'Ebola. C'était quelque chose d'incroyable. La première fois que Jésus l'avait fait, au chapitre 5, il l'avait fait je vais vous lire les versets 5, du chapitre 5, versets 12 à 17, à 15, à 16. Jésus était dans une des villes, et voici qu'un homme couvert de lèpre le vit, tomba la face contre terre et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui recommanda de n'en parler à personne, mais dit-il « Va te montrer au sacrificateur et fais une offrande pour ta purification comme Moïse l'a prescrit. » afin que cela leur serve de témoignage. » Donc là, on voit la première guérison de Jésus, c'est une guérison par contact. Il touche le malade. Quelque part, c'était une preuve d'inconscience ou une preuve de puissance. Parce que toucher un lépreux, c'était quasiment se condamné à attraper cette terrible maladie. Et là, on le voit, Jésus est en route vers Jérusalem depuis sa Galilée. Il passe entre la Samarie et la Galilée. Entre les versets 11 et 12, on pourrait sans doute placer Jean 4, lorsque, vous vous souvenez, il parle à la Samaritaine. On sait que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Ça, c'est dans Jean 4, 9. La femme samaritaine qui voyait Jésus venir lui parler, qui lui demandait à boire, était surprise. « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» Mais Jésus va lui parler du don de Dieu, lui dire que si elle savait qui lui parlait, ce serait elle qui lui aurait demandé à boire de cette eau vive qui donne la vie éternelle. Elle fait allusion au fait que les Samaritains étaient considérés comme une race inférieure par les Juifs. Ça remonte à l'histoire du peuple juif dans l'Ancien Testament, la division du royaume de Salomon en deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord, celui de Samarie, a été exilé et ils se sont intermariés. Et donc, quand ils sont revenus après l'exil, ils n'étaient plus des juifs purs, ils avaient contracté des mariages, ils s'étaient mélangés à d'autres races. Et de ce fait, les juifs de Jérusalem, de Juda, qui eux avaient essayé de ne pas faire cela, les considéraient comme un mélange, un ramassis de peuples impurs. Et il y avait cette préjugé terrible de supériorité raciale. La Bible est très claire. Tout préjugé, que ce soit de race, de condition sociale, de sexe, n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. En Jésus, nous sommes tous un. Il n'y a plus de juifs, de païens, de femmes, d'hommes. C'est la nouvelle économie, la nouvelle et des chrétiens racistes, des chrétiens qui ont des préjugés sociaux. Ils ne peuvent pas être de vrais chrétiens, ou alors ils n'ont rien compris. Là, il entre dans un village et il y a 10 lépreux qui viennent à sa rencontre. Mais il est dit, ils se tiennent à distance. Là aussi, dans l'Ancien Testament, il y avait des prescriptions et dans les textes rabbiniques, il y avait aussi des prescriptions qui disaient que s'il y avait du vent dans le mauvais sens, on devait se tenir à 100 mètres des personnes à qui on parlait. S'il n'y avait pas de vent, on pouvait être plus près, mais il fallait toujours garder sa distance. Une chose que je n'ai pas dite, c'est que souvent la lèpre affecte les parties respiratoires et donc le larynx, et la voix des lépreux était souvent une voix rauque. Ils avaient du mal à parler parce qu'ils avaient tout pour plaire, les pauvres. Ils étaient vraiment tenus à l'écart parce que personne ne voulait avoir de relation avec eux. Et là, ils doivent élever la voix. Ils crient et ils disent « Jésus, maître, aie pitié de nous ». Le terme « maître » ici, c'est un terme qui est utilisé seulement dans l'évangile de Luc. Dans les autres passages de la Bible ou du Nouveau Testament, le terme de « maître » est utilisé, ça est plus souvent dans le sens de « maître qui enseigne », comme un rabbin ou comme un enseignant. Mais là, le terme de « maître », c'est un terme qui veut dire « tu es le souverain ». Tu as toute puissance. Quelque part, ces lépreux, même s'ils sont isolés, ils ont entendu parler de la première guérison, peut-être. Ils savent que Jésus guérit les malades. Quelque part, ils ont une foi vague, mais qu'ils exercent en demandant à Jésus d'intervenir. Et c'est toujours important, la première chose dans nos vies, c'est de crier vers Dieu. Pas seulement la première fois où on se tourne vers lui, mais dans les situations de la vie, dans nos difficultés, dans nos épreuves, est-ce qu'on crie vers Dieu? Ou est-ce qu'on va sur Google chercher les recettes pour régler notre problème? Est-ce qu'on va chez notre psy ou chez notre voyante pour demander des conseils? Ou est-ce qu'on crie à Dieu? Est-ce qu'on vient à Jésus pour lui demander l'aide? Eux au moins, ils ont ce bon réflexe, on pourrait dire, de reconnaître que Jésus est puissant. Il est le maître, il implore, il lui demande sa pitié. On a ici, on va voir le contraste entre une guérison de masse, une guérison massive et une gratitude minime. Pour les guérir, là, il va utiliser une autre méthode. Jésus est très créatif. Nous avons tendance à limiter Dieu, à faire les choses, à lui demander de faire les choses comme nous l'avons déjà demandé de faire des choses, ou comme nous avons entendu parler de situations où il a fait les choses de telle ou telle manière. La première fois, vous vous souvenez, il avait touché le lépreux. Là, il va le faire à distance. Et il va leur demander de faire preuve de foi parce qu'il va leur demander d'agir comme s'ils étaient déjà guéris. Faites comme si vous étiez déjà guéris. Parce qu'il leur dit, la Bible nous prescrit de dire, de faire que lorsqu'on est guéri, on va le dire au prêtre, pour qu'il leur réalise que Dieu a guéri, mais aussi qu'il vous aide à présenter les sacrifices prescrits par la loi, de façon à ce que vous puissiez réintégrer la communauté des croyants, que vous puissiez aller au temple, vous puissiez prier avec vos frères et sœurs, vous puissiez louer Dieu. Et là, il leur dit en fait, allez vous montrer au sacrificateur. Vous n'êtes pas guéri encore, mais je vous demande de faire ce que vous feriez si vous étiez guéri. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez... On sait tous qu'en fait, la lèpre, par ses caractéristiques physiques, est souvent utilisée comme une illustration de ce que le péché fait en nous. La lèpre, c'est la maladie physique, le péché, c'est la maladie spirituelle. Le péché nous rend insensibles à la justice, à ce qui est bien, à ce qui est mal. Le péché est contagieux. On pense souvent que si je pêche de mon côté, c'est entre moi et Dieu, et puis Dieu, de toute façon, il est là pour pardonner, c'est pas bien grave. Mais mon péché, que je le veuille ou non, affecte les autres. La façon dont je me comporte va être utilisée par certains pour justifier des comportements qui ne sont pas selon Dieu. Et est-ce que dans votre vie, il y a des... Vous priez pour que Dieu vous libère de certaines choses. Dieu vous libère de certains péchés habituels, peut-être, d'idoles dans votre vie. Dieu vous dit, agissez comme si vous étiez guéri. Parce que si vous êtes venu à lui, il vous a guéri de ce péché. On a vu que le péché exerce trois pouvoirs. Il y a sa présence, il y a sa puissance, il y a sa... Le péché, il exerce une emprise sur nous. Il nous tient captifs. Ça, c'est le premier effet. Et quand nous venons à Dieu, nous sommes libérés de cette prison du péché. Nous pouvons rester dans la prison comme un chien qui reste dans sa niche, même si on l'a détaché de sa chaîne. Et beaucoup de chrétiens ont été libérés de la punition, de la puissance du péché, mais ils restent comme s'ils étaient toujours attachés. Donc la punition du péché, la puissance du péché, Dieu nous en a affranchis. Il y a aussi donc la punition, mais il y a la puissance, mais il y a la punition du péché. Dieu, quand il nous justifie, lorsqu'il nous déclare juste, nous n'avons plus à prendre la punition qui nous reviendrait normalement. Puis éventuellement, il y aura la présence du péché ne sera plus là. Et ça représente les trois étapes. La justification, la sanctification, la glorification. Le péché a été vaincu à la croix. Et Jésus, avant même que nous sachions qui il est vraiment, que nous ayons appris toute la Bible ou lu toute la Bible, il nous pardonne et nous sommes comme guéris. Et nous sommes vraiment guéris spirituellement. Après, il faut mettre en œuvre cette guérison. Et quelque part, cette démarche d'aller voir les prêtres et d'être purifié cérémonieusement, cérémoniellement, c'est un peu cette sanctification. Et donc, ils exercent une certaine foi parce qu'ils partent, ils vont vers les prêtres. Et encore une fois, je vous rappelle, ils ont du mal à marcher, leurs pieds se sont blessés, ils ont des moignons. C'est pas beau à voir. Ils trébuchent en marchant. Et il est dit qu'en chemin, pendant qu'ils y allaient, ils sont purifiés. Ils sont guéris physiquement. Il n'y a pas de miroir. Ils n'ont pas de smartphone pour faire des selfies. Mais l'un dit à l'autre, « Mais tu as les joues toutes lisses ?» Et l'autre qui lui dit, « Mais toi aussi ?» Regarde tes pieds. Oh, ils sont guéris. C'est un peu comme si j'étais avec quelqu'un de chauve et puis on se dit, regarde tes longs cheveux blonds. Oh, ou blanc ou noir. Ils sont guéris. Et donc, ils vont vers les prêtres, les sacrificateurs. Encore une fois, le terme de sacrificateur, c'est un terme bizarre qui a été inventé par Louis II, parce qu'il était tellement anti-catholique qu'il avait peur que le mot prêtre fasse penser aux prêtres catholiques. Donc il avait fabriqué ce mot de sacrificateur. Une des tâches des prêtres, c'était de présenter des sacrifices, mais ils avaient beaucoup plus que ça. Donc, je suis vraiment désolé pour cette traduction, et je dis toujours les prêtres. Dans ce cas-là, ils devaient offrir des sacrifices, donc ça marche un peu, mais ils vont aux prêtres, et il y en a l'un d'eux, qui réalise qu'il est guéri. Il se voit guéri, il ne voit pas son visage, mais il voit ses mains, il voit ses pieds. Il sent la force venir en lui. Il revient sur ses pas. 1 sur 10. Qui vient dire merci et glorifier Dieu à haute voix. Alors on peut imaginer que les autres se sont posés des questions, peut-être ils ont dit, bon, il nous a dit d'aller voir, on va voir d'abord, on reviendra après. Ou il y en a peut-être qui se disent, mais il est bien gentil, mais s'il nous guérit, pourquoi est-ce qu'il ne va pas le dire au prêtre lui-même? C'est loin pour nous, c'est fatigant. Puis d'autres qui disent, bon, on n'a rien à perdre, essayons. Et quand ils sont en route, mais ils ne pensent pas à reconnaître ce qui s'est passé auprès de Jésus. Et rien dans la suite ne nous permet de penser qu'ils sont revenus. Et celui qui revient, il tombe face contre terre aux pieds de Jésus. C'est un signe d'adoration. Il remercie Dieu. Et il remercie Jésus, peut-être qu'il n'a pas encore bien réalisé que c'était la même chose. Et il est dit, c'était un Samaritain. C'était un de ces sous-hommes pour les Juifs. Et au verset 17, Jésus reprend la parole. Alors certains disent que c'était une question rhétorique. Je crois qu'il était sincèrement déçu. Encore une fois, il s'était défait de sa divinité dans tous ses aspects. Il avait accepté ses Philippiens 2. Il s'était humilié jusqu'à devenir un homme, les capacités divines qu'il avait en lui, je crois qu'elles étaient imparties ou données, elles lui étaient permises par l'Esprit Saint qui était en lui de façon abondante. Il pose cette question, il n'y en avait pas 10, où est-ce qu'ils sont passés les autres? 1 sur 10. Il a cette question, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? L'étranger, c'est le terme qui veut dire autre race. C'est quelqu'un d'une autre race que la race des Juifs. La question de race est toujours délicate, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de race au sens d'une race qui viendrait depuis la nuit des temps, qui serait restée pure. Ça, c'était le mythe de la race aryenne. Mais Jésus utilise l'expression qui était utilisée à l'époque pour désigner les étrangers, parce que les Juifs étaient fiers d'appartenir à la race des Juifs. Et donc, c'est cet étranger. Ils avaient gardé une certaine forme de religion. On s'en rappelle dans Jean 4, il y avait des débats à savoir qu'ils devaient adorer à telle montagne ou pas. Elle disait à Jésus, la Samaritaine, dans Jean 4, verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure viendra où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous l'adorerez en esprit et en vérité. » Nous n'avons pas besoin d'aller dans un endroit précis, pas besoin d'aller à Jérusalem. Et il lui dit, il est émerveillé que ce soit quelqu'un qui n'ait pas cette foi de Jérusalem, quelqu'un qui soit étranger, qui vienne le remercier. On a dit que pour les Juifs, un Samaritain lépreux, on pourrait dire qu'un Samaritain lépreux, c'était doublement répulsif. Ils avaient toutes les qualités pour être détestés. Non seulement ils étaient samaritains, mais ils étaient lépreux. Donc ils étaient vraiment tenus à l'écart. Mais cet homme, il sait qu'il y a une responsabilité au niveau pratique rituelle de la religion, la cérémonie. Mais il sent qu'il a une responsabilité spirituelle. Lorsqu'il est dit qu'il glorifie, verset 15, qu'il glorifie Dieu à haute voix, l'expression haute voix, c'est l'expression qui nous donne le mégaphone. Un mégaphone, c'est quelque chose pour amplifier la voix. Et là, il doit crier. On sait que, je l'ai évoqué, ils avaient souvent du mal à se faire entendre parce que leur voix était enrouée ou rauque. Et peut-être que là, il est guéri et sa voix d'un seul coup porte très loin et il est heureux de glorifier Dieu à haute voix. Donc face à cette guérison massive de 10 personnes, on voit une gratitude minimale. Et quelqu'un faisait remarquer que on parle souvent du quotient intellectuel, du QI. Et on pense que la chose la plus importante, ou une des choses les plus importantes dans la vie, c'est d'avoir un grand QI. Alors on peut mesurer son QI auprès de la Mensa, on peut mesurer son QI sur Internet. Vous avez peut-être déjà vu des offres qui vous demandent de cliquer là pour aller mesurer votre QI. Quotient intellectuel, mais quelqu'un disait justement avant notre QI, ce qui compte pour Dieu, c'est notre QG, notre quotient de gratitude. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de remercier Dieu? Ou est-ce que vous êtes toujours à vouloir plus et à oublier les réponses à vos prières? Le mercredi soir, on a pris l'habitude, Elodie s'est chargée de cette tâche, c'est de noter les requêtes de prière, mais aussi, plus important peut-être, c'est de noter les réponses à ces prières, les réponses positives, les réponses en attente ou les réponses négatives. Les réponses négatives, il peut y en avoir, mais les réponses en attente, on continue de prier. Mais je suis moi-même stupéfait dans ma propre vie de voir que je prie pour des choses qui arrivent et que j'oublie de remercier le Seigneur. Alors quand je le réalise, c'est déjà la victoire parce que à ce moment-là, le fait de le réaliser me fait remercier Dieu. Mais cette fin d'année était un peu difficile à prévoir avec la naissance de notre première petite fille. Savoir si elle allait arriver avant Noël, le jour de Noël, avant le Nouvel An, le jour du Nouvel An. Lindsay et nous prions pour qu'elle arrive après, pour que l'enfant ait un vrai anniversaire, pas un anniversaire qui est mélangé avec Noël ou avec le Nouvel An. C'est pas grave si c'est votre cas, on prie pour vous. Lindsay et on priait pour ça, voulait avoir une naissance naturelle, sans recours à un déclenchement chimique, sans épidurale. Beaucoup disent ça, je vois pas pourquoi. Elle priait ça. Mais le Seigneur a répondu à tous ces petits détails à nos yeux ou aux yeux de certains, mais on voit que, comme dit Jacques, nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Et il ne s'agit pas d'avoir une vague gratitude pour un Dieu qui est peut-être là. Christ veut nos cœurs. Et j'étais très attristé. On a vécu des choses, pour faire une brève allusion à Charlie Hebdo et tout ce qui en est suivi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lors de l'enterrement de l'un des dessinateurs caricaturistes, il y avait un de ses amis qui disait, bon, ben, on a beaucoup pleuré, mais on a dessiné, on a bien ri, et puis maintenant, un tel, il est, et puis il s'est repris, et puis il a dit, il est nulle part, puisqu'il ne croyait pas. Alors, excusez-moi, vous êtes peut-être monsieur le cartooniste ou le caricaturiste, quelqu'un de doué, d'intelligent, mais votre logique, elle est nulle. Il est quelque part ou il n'est pas quelque part, mais c'est pas suivant ce que l'on décide de croire que la réalité se décide. Soit il y a un enfer et il y a un paradis, soit il y a un Dieu et il n'y en a pas. Mais on ne peut pas penser que parce que je décide que Dieu n'est pas là, il va me laisser tranquille. Encore une fois, je crois que je n'ai pas mis que j'étais Charlie sur mes sites. Parce que je ne soutiens pas du tout l'humour grinçant, obscène, dégradant de ces caricaturistes envers la foi musulmane, envers la foi chrétienne. Je suis absolument désolé de voir que des imbéciles sont en train de mettre le feu à des églises chrétiennes alors que Charlie Hebdo a été absolument obscène avec la foi chrétienne. Lorsqu'on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans une relation homosexuelle en première page, je suis désolé, je ne suis pas Charlie. Et pour la plupart, je vais dire que tous ces Charlies, entre guillemets, ce sont des charlots. Ils profitent d'un mouvement, d'une émotion pour essayer de capitaliser sur ça. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que je ne regrette pas ce qui s'est passé, que je suis absolument horrifié par le fait qu'on puisse tuer les gens de cette façon brutale pour des idées. Dans ce sens-là, je suis Charlie. Je pleure avec les gens qui ont souffert et avec la violence insensée. Mais c'est l'occasion justement de dire pourquoi vous n'êtes pas Charlie. Parce que pour vous, il y a un Dieu qui existe. Et que ce Dieu, il a tout pouvoir sur la terre et dans l'éternité pour juger les hommes. Et qu'il est venu, qu'il a déjà subi un sacrifice terrible. Mais il ne l'a pas fait par accident. C'est pas parce qu'il avait insulté les gens qu'on l'a tué. C'est parce qu'il est venu pour nous sauver. Je referme la parenthèse. Mais ce qui est important, c'est que Jésus ajoute quelque chose. Il lui dit, verset 19, « Lève-toi, va, ta voix, ta foi t'a sauvé. » Autrement dit, c'est le terme qui est utilisé, le verbe qui est utilisé pour parler de la foi qui sauve. C'est pas une foi comme je pense que Dieu existe peut-être. C'est une foi en Jésus-Christ, voyant Jésus devant lui. Lui a réalisé que c'était Dieu. Il donne gloire à Dieu, il s'est prosterné contre terre en signe d'adoration de Dieu devant Jésus. Et cette foi, elle l'a sauvé, non pas seulement physiquement, encore une fois, la guérison physique, c'est quelque chose de merveilleux pour laquelle nous pouvons prier, que Dieu accorde volontiers, suivant les circonstances et ses plans, mais bien plus important, c'est la guérison éternelle. La guérison de la maladie, de la lèpre spirituelle, du péché, c'est la vie éternelle. C'est de savoir que notre vie, elle est si courte. On a du mal à le croire lorsqu'on a une vingtaine d'années, mais quand on arrive déjà à 40 ans, on réalise que, on se trouve vieux déjà à 40 ans. Puis à 50 ans, waouh. Puis à 60 et après, ça... C'est le début de la fin. Et c'est juste, ça va très vite. Et on peut se distraire au sens pascalien du terme. On pense à plein d'autres choses, sauf aux réalités que nous devons tôt ou tard confronter. Il y a une vie après la mort. N'en déplaise à Charlie Hebdo. Et donc cette foi, elle sauve. Et... cette gratitude qu'il avait, cette louange qu'il exprimait, c'était les signes. C'est pas ça qui l'a sauvé, mais c'était les signes qu'il avait vraiment compris et qu'il avait embrassé une foi qui sauve envers Jésus-Christ. Et où il y a la vraie foi, il y a toujours un cœur reconnaissant. Un chrétien ingrat, un chrétien qui rouspète, un chrétien qui gémit, qui se lamente tout le temps, ça peut pas être un vrai chrétien. Et la Bible est pleine de versets qui nous rappellent ceci. Pour terminer, en lire quelques-uns. Je vous invite, notez-les si vous le souhaitez. 1 Corinthiens 15, 57. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 2, 14. de Corinthiens 2, 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » 2 Corinthiens 9, 15, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, parlant de l'évangile du Christ. » Colossiens 3, 17, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Colossiens, je trouve plus la bonne référence, mais toute la Bible est pleine de ces remerciements à Dieu. Et si vous avez bien lu, si vous avez remarqué, on rend grâce au Père au nom du Seigneur Jésus. Il y a cette relation étroite qu'on remercie Dieu. Jésus est la raison. C'est par Jésus. On loue Dieu par Jésus-Christ. Et c'est une bonne idée de le faire déjà ici-bas, parce qu'éventuellement, c'est ce qu'on va faire pour l'éternité. Enfin, les gens se plaignent de ne pas avoir assez de renseignements sur le futur et se disent, quand je vais en vacances, j'aime bien avoir le plus de détails sur le lieu de vacances, sur la qualité des chambres, de la restauration, des plages, de la température. En fait, la Bible nous donne plus d'informations pour laquelle on lui donne le crédit. On peut lire Apocalypse 4, versets 9 à 11. Quand les êtres vivront, rendons gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, des actions de grâce, des remerciements, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles et ils jetteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Et plus loin, dans chapitre 5 de l'Apocalypse, verset 11, « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône des êtres vivants et des anciens. » Et leur nombre était des dizaines de milliers, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et à contrario, ceux qui n'ont pas cette gratitude, cette louange pour ce que Dieu est, pour qui Dieu est, et pour tout ce qu'il a fait, son amour pour nous, cette rédemption qu'il a achetée au prix du sang de son propre Fils. A contrario, dans Romains 1, 21, on voit que la source des péchés, c'est ce manque de gratitude. En effet, il est dit, ils sont donc, je vais lire le verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on considère ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, par la création, par leur propre conscience, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils n'ont pas remercié, mais ils sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Puis continue en parlant de la folie qui les a saisis de tous les péchés. Au verset 29, mais le point de départ, c'est de ne pas reconnaître Dieu et ne pas le remercier, ne pas lui rendre gloire, ne pas le remercier, pas glorifier Dieu, ne pas lui rendre grâce. Et un autre aspect de la gratitude, c'est que la gratitude et la dépression. On est encore une fois le pays au monde qui consomme le plus d'anxiolytiques. On a du mal à dormir en France. On a des problèmes psychologiques. On est les champions de la déprime. On a parlé avec Luc du nombre de jeunes qui se suicident. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de gratitude envers un Dieu qui nous aime. Et on peut pas être déprimé lorsqu'on remercie. Alors ça ne veut pas dire, je veux pas que certains d'entre nous culpabilisent en disant « mais ça va vraiment pas en ce moment ». Mais c'est vrai qu'un des remèdes, c'est de chanter des louanges, d'écouter de la musique chrétienne. Même si on n'est pas déprimé, il y a des moments où on voit les choses en se disant « oh là là, j'ai trop de choses à faire, il y a toutes ces menaces, il y a toutes ces sourdes angoisses ». Et puis on remet nos pensées sur Dieu. Et là on peut faire la différence autour de nous. Parce que encore une fois, on vit dans un pays qui est déprimé, un pays qui n'a plus de grands espoirs. Alors il y a eu un encouragement avec ce rassemblement national, ça c'est peut-être une bonne chose, mais on sait tous que c'est fondé sur des interprétations différentes de ce que ça veut dire que être Charlie. Mais il y a encore de l'espoir. Et Paul nous disait dans, je terminerai par ce verset, je promets c'est le dernier, Philippiens 2, 14, faites tout sans murmurer ni discussion. Autrement dit, arrêtez de râler. Arrêtez d'être franchouillard. Faites tout sans murmure ni discussion. Pas seulement certaines choses, tout. Vous venez faire le ménage à l'église, vous êtes tout seul, ne rouspétez pas. Parce que, verset 15, pour être irréprochable, pur, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Montrer de la gratitude, c'est rare. Et ça vous permet de briller comme des flambeaux. Statistiquement, on voit qu'il y a dans cette situation de gens qui vivaient, qui ont vu Jésus-Christ de leurs yeux, il n'y a que 10% des personnes touchées ainsi, bénies par Dieu, par Jésus, qui pensent à le remercier. Soyons de cela. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité sur notre chemin. Elle est une lampe sur notre sentier. Merci de nous rappeler l'importance de la gratitude, Seigneur. Merci de ce que tu aimes tous les hommes et aide-nous à briller pour propager cette vérité, Seigneur. Seigneur, nous pouvons même te remercier dans des situations difficiles. Je me souviens de ce pasteur qui remerciait Dieu après un vol de ses affaires, qui disait « Merci Dieu que c'est la première fois de ma vie qu'on me vole ». Seigneur, aide-nous à avoir cette capacité de voir les bonnes choses au milieu des difficultés. Et Seigneur, nous vivons dans une grande obscurité, mais nous voulons te remercier pour cette obscurité parce qu'elle permet que notre petite lumière fasse une grande différence. Seigneur, aide-nous à être des flambeaux qui brillons dans une génération corrompue et perverse. Merci Seigneur pour ton amour. Aide-nous à te louer, à te glorifier, à te remercier. Dans le nom de Jésus.